When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
Rêveurs audacieux.
Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif.
Conspirateur positif.
Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
Et si demain n'était pas foutu ?
Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons live », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir au Bouffe du Nord Alain Damasio, novelliste prolixe, héros de la littérature de l'imaginaire, auteur ex-qualité de la science-fiction française, qui prend le temps pour enchaîner des chefs-d'œuvre. La zone du dehors en 1995, miroir cruel sur les illusions de nos systèmes démocratiques. La horde du contrevent 2004, voyage épique autant que poétique dans un monde désert ayant le vent pour propriétaire. Et plus récemment, les furtifs, qui interrogent le devenir de notre société de traces. Un monde numérique et onirique de créatures qui vivent dans l'angle mort de notre réalité, s'épanouissant là où naturellement nous ne regardons pas. Bonjour Alain.
Bonjour. Et bonjour à tous.
Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et enfin, un voyage dans le temps, en 2050. Une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Le fil rouge de cette émission, c'est la confiance, le pharmacone pour moi de notre époque. On crève de ne plus avoir confiance en quiconque ou en quoi que ce soit, et à chaque fois que l'on retrouve confiance en quelqu'un ou en quelque chose, on gagne des points de vie. Eh bien moi, Alain, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que le langage pour toi, c'est un commun emprunt de fluidité, un antidote même dans sa compétition secrète qu'il mène face à l'argent. Car à la différence de ce dernier, quand tu le partages, le langage, tu n'es jamais dépossédé alors que tu as enrichi autrui. J'ai confiance en toi parce que le langage, pour toi, c'est un pouvoir opérant, à tel point que tu as créé l'école des vivants. Une école buissonnière créée et portée là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence, par des artistes, des paysans, des scientifiques, des militantes et des militants, habités par une conviction, on ne changera pas cette société sans apprendre, ni explorer, ni expérimenter. J'ai confiance en toi parce qu'en tant qu'écrivain, tu fais de beaux cadeaux. J'en ai reçu un de toi au TEDx Paris 2014, où, succédant à Laurent Alexandre, qui augurait non sans effroi que la personne qui vivrait 1000 ans était déjà là, tu as ouvert d'un bon mot une autre voie. En mettant en relation art de vivre et technologie, tu nous invitais à choisir bien plus que le transhumanisme, la très-humanie, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première question que je pose à toutes celles et ceux qui me font l'honneur et le bonheur de venir ici converser avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, Alain ?
Waouh, ça démarre extrêmement fort. merci Mathieu. Ce que j'ai envie de dire spontanément, c'est que moi, je ressens l'époque comme extrêmement stimulante, extrêmement passionnante. Je trouve que c'est une époque de fractures, de lézards, de fissures extrêmement puissantes. Je trouve que tout ce qui était en place ne peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire que si on prend les enjeux de genre, par exemple, ben on peut plus continuer dans la masculinité toxique comme avant, on peut plus continuer dans le patriarcat. Si on regarde les enjeux de colonisation, ben on peut plus coloniser impunément, innocemment. On peut plus, par exemple, coloniser la Palestine comme on le fait avec 500 000 colons et croire que tout va bien se passer après ça. On peut plus continuer à considérer qu'on est des puissances énergivores et à faire des orgies énergétiques comme on les fait. Et croire que la planète va pouvoir encaisser ça et qu'on va pouvoir continuer à vivre sur une planète qu'on pille exhaustivement. Donc toutes ces choses-là nous obligent à des ruptures, à des plis, à des bifurcations ultra fortes. Donc moi, j'ai la chance d'être écrivain de science-fiction, donc je me place sur cette espèce de vague avant des changements. Je travaille sur ce que le futur et l'avenir peut faire advenir, exactement comme tu le fais toi avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc pour moi, c'est magnifique, voilà, parce que je suis au bon endroit, là où c'est en train effectivement de changer, de se transformer, de bouger. Et je crois pas du tout, on en parlera, que ce mouvement, ça soit juste une chute, un effondrement ou une collapso dominante. Je pense que ça va créer des choses absolument géniales, mais qu'on va passer par des moments, bien sûr, ultra durs. Donc ouais, moi j'aime bien l'époque. Je suis content d'être là en fait. Je sais qu'il me reste 30 ans en gros à vivre et pendant 30 ans je vais voir vraiment beaucoup de choses et je vais voir beaucoup de choses se passer et je vais pouvoir peser à mon petit niveau là-dessus, essayer de pousser vers le positif. Donc ça me plaît. Ouais.
Toi, tu as choisi la science-fiction parce que tu le dis souvent, la science-fiction, sa vertu, en tout cas sa raison d'être pour toi, c'est d'interroger le rapport de la technologie avec l'homme.
Ouais.
C'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours un objet, artefact, prétexte à parler d'une humanité. Par contre, moi, j'y vois un tropisme à la science-fiction et j'aimerais bien qu'on en parle. Pourquoi la science-fiction montre toujours demain comme la réalité détruite, étiolée d'un présent qu'on aurait quitté ? Pourquoi c'est toujours vers les dystopies que s'en va la science-fiction ?
Bon, alors déjà, il n'y a pas que ça hein, dans l'ASF, même si ça a été le fond de commerce pendant très longtemps de la science-fiction. Il y a plusieurs raisons. La raison numéro un, c'est que il y a une anxiété, voilà, il y a une anxiété dans la société, il y a une angoisse générale qui se met en place, ne serait-ce que voilà sur le réchauffement climatique, sur les guerres nucléaires, sur des choses qui ont été très 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 portées en SF, et que par rapport à ça, on sait que la catharsis, bah les Grecs ils l'ont inventé, mais nous on suit avec. La catharsis, c'est un extraordinaire outil d'identification. La catharsis, elle permet de purger les anxiétés, elle permet de purger les colères, les violences, les pulsions sexuelles. La catharsis, c'est un extraordinaire outil narratif. Et du coup, bah, la dystopie permet cette catharsis. Donc, on a tendance spontanément, avec beaucoup de complaisance, à aller là-bas. Et sur le plan technologique, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'une technologie est en place, d'imaginer ce qu'elle va détruire, bousiller, infléchir, que d'imaginer ce que culturellement on va pouvoir en faire. Donc on a tendance à pousser vers la dystopie. Et ensuite il y a une raison vraiment narrative qui est que la dystopie permet de poser des obstacles et des conflits pour bah, les personnages principaux, pour les protagonistes. Et qu'on sait qu'en scénarisation, plus tu fais tourner les moteurs dramatiques fondés sur les conflits, plus tu fais un récit qui généralement est dense, intéressant, riche. Donc porter une utopie avec toute la positivité que ça a, ça facilite pas les choses au niveau scénaristique. Donc on a tendance à aller sur la dystopie.
Pourtant, quand on parle là de tout ce qu'on essaie de changer les uns et les autres pour aller dans un monde qui est autrement que celui qu'on nous augure, on voit bien qu'il y a du danger, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent pas bouger, on voit bien qu'on est passé maintenant de l'hérétique, ça c'était bon il y a 20 ans, vers le danger profond. Il y a même des tueurs qui sont là commandités pour essayer d'éviter qu'on change. Donc là, on est dans l'action. On est des chevaleresses et des chevaliers de cette métamorphose. On pourrait raconter comment on hack tel ou tel système, comment on contourne tel système, comment on démode tel système. Est-ce qu'on n'a pas une trame narrative là, de combat ?
Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'essaie de faire maintenant, enfin, tu vois, j'ai commencé aussi dans les dystopies, hein, puisque la zone dehors est une belle dystopie. Voilà, société de contrôle à la Deleuze, hyper déployée, hyper insidieuse, sournoise. Et dedans, un groupe révolutionnaire quand même qui se bat déjà contre ce monde et qui crée des comités dans la zone dehors. Donc la partie utopie était quand même là dès le départ. Mais plus ça va, plus je trouve que la meilleure façon de travailler, que ce soit, moi j'ai travaillé en série télé, je travaille en long métrage, en pièce de théâtre, je travaille en jeu vidéo ouais. Et je travaille évidemment en roman. Et à chaque fois, je travaille effectivement beaucoup sur la science-fiction. Et plus ça avance, plus je trouve que le bon équilibre, c'est tu mets un fond dystopique. Voilà, par exemple, dans Les Furtifs, je mets un fond dystopique sur deux choses principalement. C'est l'IA personnalisée, l'intelligence artificielle personnalisée avec la bague. Comme je dis, un seul anneau pour nous gouverner tous. Et donc, le bijou connecté qui arrive est porté par l'IA personnalisée. Et puis, de l'autre côté, c'est les villes privatisées avec effectivement... Là, c'est génial parce qu'on a... Notre-Dame de Paris, derrière, en arrière-plan. Vous savez que LVMH va racheter Paris, c'est en 2042. et que ça va s'appeler Notre-Dame de L'Oréal. Voilà. Donc préparez-vous, c'est très joli, je trouve, c'est floral, c'est chouette, mais il faudra rebaptiser les choses. Et du coup, je bâtis cette dystopie d'un monde, effectivement, où il y a un zonage urbain, où, voilà, si t'es forfait standard, t'as accès à 50% des rues, des places, de la ville, si t'as un forfait privilège, t'as accès au total cover, c'est-à-dire à 100%. Donc, je mets en place cette dystopie, mais je mets en place aussi toutes les mécanismes d'utopie qui vont lutter contre ça. Donc, seulement la résistance et l'empuissantement de la résistance, puisqu'on a... les furtifs eux-mêmes qui vont se placer dans l'angle mort de cette société de contrôle, mais aussi tout un ensemble de groupes, voilà, des groupes qui s'implantent sur les toits, qui créent une nouvelle ville à partir des toits, des gens qui s'installent dans les interstices de la ville et qui aident les migrants à construire leur propre logement et à le défendre. On a effectivement des zouaves, des zones où apprendre à vivre ensemble, on a des ZAD, on a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc je mets aussi en place l'utopie. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est ce qu'on a appelé, là je me rappelle plus qui a posé ce terme, mais il est génial, et qu'on m'excuse ou qu'on retrouve ce nom, c'est la prototopie. Voilà, la prototopie, c'est vraiment pour moi l'horizon, l'espèce de ligne de fuite entre utopie et dystopie, c'est-à-dire que c'est le moment où tu mets en place un système social, un système politique, une façon de vivre ensemble, un univers pour moi relativement crédible, qui soit un prototype de la façon dont on devrait vivre demain. Voilà. Donc la capacité à créer ces prototopies, je trouve que c'est super intéressant quand on arrive à faire ça. Encore une fois, j'essaie de le faire un tout petit peu dans la zone dehors, j'essaie de le faire dans les furtifs aussi, à la fin, et notamment par l'hybridation. Mais c'est plutôt ça. Donc sortir de ce truc, utopie, dystopie, non, dire, ok, quel prototype de société on aimerait poser, on va essayer d'être capable de poser. Voilà, c'est ça qui...
Ce qui est un peu l'esprit et l'âme de la prospective. La prototopie, c'est, semblerait, Yannick Rumpala.
Oui, c'est ça, mon Dieu.
Enseignant-chercheur à l'Université de Nice, auteur de l'ouvrage « Hors des décombres du monde », magnifique titre. Pour lui, c'est vraiment sortir de la dystopie, de l'utopie par justement des lignes de fuite. Ça devrait évidemment te parler. C'est un peu programmatique, c'est-à-dire comme les futurs souhaitables, ça montre un futur qui est accessible à la faveur de variables et de leviers. Et surtout, il fait ça pour sortir du pessimisme qu'induit la collapsologie. Toi aussi, t'es proche de la collapsologie. Le cas où il faut l'adresser, en tant qu'auteur de science-fiction, tu le fais bien, mais il faut en sortir. Alors comment on sort de ça? Comment on sort de cette glue?
Comment on sort de cette glue? Déjà, il faut sortir de la séduction, quoi. La collapso, c'est ultra séduisant. C'est-à-dire que toute humanité, toute génération aimerait être la dernière génération. Il y a quelque chose d'hyper jouissif à se dire « je suis la dernière génération, nous sommes les derniers des hommes, c'est génial ». Et il y a un côté à la fois vertigineux, mais hyper séduisant, ça. Donc il faut vraiment sortir de ça. Il y a plein d'époques qui ont considéré que tout allait s'écrouler. On n'est pas les premiers à y croire. Ce qui va s'écrouler, c'est sans doute nos niveaux de confort, nous, en Occident. Ou en tout cas, ça va être remodelé. Peut-être qu'on va passer de l'high-tech à la low-tech. Mais en tout cas, pour adresser ce chaos, c'est se dire ce qui nous fait peur, en réalité, c'est qu'on a atteint une telle acmé technologique, une telle hybris énergétique et technologique, que on est au sommet d'une courbe absurde et qu'il va bien falloir redescendre et que ça va pas du tout être catastrophique, ça va être une réadaptation. Nos arrière-grands-parents vivaient dans des conditions de confort bien plus précaires que nous et ont parfaitement bien vécu. Donc il y a des choses qu'on va perdre et que l'enjeu, c'est de trouver le bon art de vivre avec cette technologie et avec, évidemment, avec le reste du vivant, c'est-à-dire avec les autres espèces animales, végétales, avec les écosystèmes, et que si on réinvente pas, si on recadre pas ces deux façons d'aborder et la technologie et le rapport au vivant, c'est sûr qu'on va vers des moments difficiles, voilà. Mais on va les dépasser, de toute façon.
Alors, auteur de science-fiction, c'est un peu comme climatologue, c'est vraiment in the mood. Je trouve que le futur a de nouveau de l'avenir. C'était pas le cas, hein. Fut un temps, on n'avait qu'une seule trajectoire, on avait même imaginé la fin de l'histoire, tellement qu'il n'y avait plus qu'à développer ce qui avait marché. Seulement, on avait oublié dans l'équation la biosphère, c'est ça qui se rappelle à nous. Donc, il faut réinventer un futur où on ne serait pas au centre du game, mais un parmi les vivants. Justement, d'où l'école éponyme que tu as créée. On entend beaucoup parler de nouvel imaginaire. Toi, ça fait 30 ans que t'es dans le game. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, cet imaginaire? J'entends bien qu'on veut un imaginaire différent, puisque de toute façon, si on conduit droit devant, c'est une impasse. En quoi il est nouveau, cet imaginaire?
Il n'est pas nouveau, en réalité. Enfin, je veux dire, plus on l'appelle, moi je vois, je suis demandé dans plein de lieux, d'institutions, d'entreprises, d'associations, etc., où on espère que je vais arriver avec le nouvel imaginaire qui va sauver tout le monde. Évidemment, ça n'a aucun sens, parce que cet imaginaire, c'est surtout du réel que nous, on va construire ensemble, que la société va construire. Moi je dirais qu'il y a quand même une inflexion des imaginaires si on veut vraiment regarder ce que la science-fiction a fait et ce qui se passe. Moi, je considère qu'on est en train de passer, je vais le faire hyper court, du cyberpunk au biopunk. Voilà, c'est-à-dire que je considère... T'as vu, c'est assez rapide, hein, c'est cool. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en fait, nous, on est les héritiers, et Elon Musk, et Zuckerberg, et Jeff Bezos, etc., sont les héritiers, ceux qui pilotent, on peut dire, le monde, en tout cas qui pilotent nos quotidiens grâce aux outils qu'ils fabriquent. Ces gens-là ont été biberonnés à la science-fiction des années 70. Cette science-fiction, elle avait une trajectoire, elle avait un horizon qui était de dire le couplage de l'homme, de l'humanité avec la technologie, qu'elle soit par des technogrèves, que ce soit par le transhumain, qu'elle soit par des drogues, etc. Ce couplage-là va émanciper l'être humain. Ce couplage-là va nous libérer, va nous agrandir, va nous évaster, va faire de nous une espèce encore plus riche, encore plus grande, encore plus intéressante. Donc il y avait cette promesse que portait le cyberpunk, même si dans le cyberpunk il y avait évidemment toute la critique du capitalisme, etc. Et il y avait bien sûr beaucoup de perspectives également dystopiques, mais il y avait quand même cette fascination ultra positive de dire, voilà, cette articulation de l'homme avec la technologie, avec les techniques qu'il a créées, va nous émanciper. Pour moi, cette promesse-là a été trahie. Voilà, elle a été trahie. Elle a été trahie par ceux-là même qui s'en réclament aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait, pour moi, l'accomplissement du cyberpunk, c'est ça. C'est ce que t'as là, c'est le smartphone. Il n'est pas greffé sous la peau, il n'est pas greffé dans la boîte crânienne, mais c'est l'outil d'extension le plus évident du corps humain et de l'âme humaine et de la cognition humaine en ce moment. Et en fait, cet outil-là, ils en ont fait une magnifique machine d'auto-aliénation, d'auto-addiction, de dépendance. Et ils en ont fait une machine de dépendance parce que ça a été créé malheureusement par des capitalistes, c'est-à-dire par des entreprises qui voulaient maximiser le temps qu'on passait sur leurs plateformes et sur leurs outils. Et pour maximiser ce temps, ils ont utilisé des comportementalistes, des psychologues, des psychiatres, des sociologues pour trouver tous les biais cognitifs humains pour maximiser cette dépendance à l'outil. Et donc la logique d'émancipation s'est repliée sur une logique de dépendance, sur une logique de manipulation, sur une logique où tous les biais cognitifs et faiblesses et fragilités psychologiques de l'humain ont été utilisés pour qu'on reste soudés et complices d'une vampirisation de nos temps, de cerveau disponible dans le smartphone notamment, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, le smartphone est aussi un outil de libération. Bien sûr, le smartphone est aussi un outil de culture, sert à beaucoup de choses. Mais si tu fais la balance, pour moi, en tout cas, le rêve d'émancipation s'est effondré dans une maximisation, optimisation de la dépendance, quoi. Voilà, ça c'est ma conviction. Et ce qui arrive maintenant, c'est un nouveau mouvement. Ce qui arrive maintenant, c'est un nouveau mouvement, c'est de dire, on est les héritiers de la modernité, on est les héritiers de la rupture entre culture et nature. On a fait de la nature un environnement, c'est-à-dire quelque chose qui est autour de nous, une sorte de fond d'écran. Et on n'a pas compris, on a arrêté de comprendre qu'on était tissé évidemment avec le vivant, qu'on habitait dans l'habitat des autres espèces et réciproquement, et qu'on faisait partie du monde animal, végétal, champignonesque et tout ce qu'on veut, puisqu'on a des microbiotes en nous, tout ça. Donc, en oubliant tout ça, on s'est coupé d'une perspective qui, pour moi, est la vraie perspective émancipatoire ou libératrice, c'est de dire on va retisser nos liens avec les écosystèmes, avec les rivières, avec le maquis, avec la forêt, avec les autres animaux. On va retrouver ce lien, on va le redéployer et on va le ramifier. Et là, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, moi je suis dans ce champ-là, c'est ce que j'appelle le biopunk, c'est-à-dire que la perspective d'émancipation, elle passe aujourd'hui par ce renouement avec les forces du vivant. Voilà, ça c'est ma conviction. Et tu vois ce mouvement, effectivement, apparaître très très fort en... moi, je vois les projets qui passent, notamment SF, que ce soit au théâtre, spectacle vivant, séries télé, jeux vidéo. Il y a cette promesse d'hybridation, de déploiement, de renouement. Donc, c'est super intéressant parce que c'était pas ce que l'ASF, normalement, devait faire. L'ASF, c'était normalement de la hard science fiction, c'est-à-dire la science-fiction de science dure, couplage avec les forces physiques, mathématiques, etc. Mais là, on vient vraiment vers le biologique. On vient vers des choses qui relèvent alors en partie des sciences dures, parce que c'est la biolo, mais aussi de beaucoup des sciences humaines. C'est-à-dire on revient à des couplages plus intéressants que la psycho avec la socio, avec l'anthropologie. Donc les meilleures œuvres, je trouve, à venir, c'est ce que faisait Ursula Le Guin aussi avant, c'est des œuvres d'anthropologues, d'écrivains de SF, écrivaines de SF, anthropologues. Je pense que c'est là que ça va être intéressant, voilà. Et donc ça implique aussi des connaissances éthologiques, ça implique des connaissances biologiques. Mais moi je crois au biopunk, voilà, je crois que le nouvel imaginaire est là, voilà.
Et le slogan des biopunks, ça pourrait être « Yes, future ». Ça changera un peu des précédents.
Ouais, c'est vraiment vrai.
Juste entre les cyberpunks et les biopunks, le solarpunk, c'était pas une invitation justement à repenser ça?
Donc le solarpunk, c'est, j'ai envie de dire, pareil, au sens où c'est la croyance que, effectivement, en ayant une ouverture vers, en tout cas, effectivement, vers la nature, mais aussi en luttant contre le réchauffement climatique, en allant chercher des technologies qui sont renouvelables et des choses comme ça, dans des utopies qui sont... Mais c'est plus des utopies, pour moi, climatologiques. C'est plus des utopies... Je suis pas sûr que c'est... que ça interroge vraiment le rapport au vivant. Enfin, moi, je le vis pas comme ça. Je trouve que c'est encore un peu trop sur du solutionnisme techno. Bon, à voir. À voir ce que ça va faire.
Donc, le solarpunk, c'est le cyberpunk renouvelable.
Ouais.
J'ai compris.
Il est fort, hein, il est fort.
Le 10 décembre 1957, un de tes collègues, Albert Camus, pour la réception de son prix Nobel, qui lui était décerné pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience des hommes, écrivait ceci. « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, dit-il, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. » Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre sans cesser de lutter contre eux l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il aura fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et Albert Camus de conclure, parlant un peu de toi, Alain, il me restera alors à vous en remercier. Du fond du cœur, et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence. Alors moi, ce que je ressens, en ces lieux autant que dans cette époque, c'est que notre génération à nous ne verra pas le monde refait. Elle ne verra pas la flèche de la cathédrale, ni même peut-être comme Gaudi son propre portail. Mais sa tâche est tout aussi grande. Elle consiste à reposer de nouvelles bases, de nouvelles fondations solides sur lesquelles nos enfants pourront construire le monde dans lequel ils aimeraient vivre. Alors, quand on doit faire cela avec de l'existant, il y a trois étapes. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut garder, sur quoi il faut se reposer. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait déposer, qu'est-ce qu'il faudrait enlever, déconstruire, on dit aujourd'hui. Et la troisième, qu'est-ce qu'il faudrait poser de nouveau à la place. Alors Alain, dans ce monde, d'entre deux, qu'est-ce qu'on garde ?
Waouh ! Ça, c'est chaud. Moi, j'ai envie de dire, je pense que ce qu'on doit garder, c'est profondément le fait qu'on est des mammifères sociaux, et c'est-à-dire qu'on doit garder le lien. C'est la capacité à s'attacher, à être attaché, à être lié, non seulement, évidemment, aux autres, à ses proches, mais aussi à ses lointains. Ce que disait Deleuze, être de gauche, c'est aimer, c'est lointain. Et vous savez que le Rassemblement national, c'est exactement l'inverse. Hein, donc plus on se rapproche, plus c'est bien, mais plus on s'éloigne, plus c'est l'horreur pour eux. Et c'est aussi être lié, évidemment, à ce qui n'est pas nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire ce qui est le hors humain, ce qui est le végétal, ce qui est l'animal, ce qui est le cosmos, ce qui est le monde, ce vrai lien au monde. Donc cette base-là, ce tissage-là, cette étoffe-là, je pense qu'il faut la garder. Si tu n'as pas ça, il n'y a rien qui tient collectivement. Donc c'est vraiment le lien. Le lien, ça veut dire aussi que ça signifie l'empathie, ça signifie la capacité d'empathie. Et dès qu'elle disparaît, on le voit, on l'a vu récemment avec les massacres réciproques hein, du Hamas et de l'armée israélienne, que dès que l'empathie disparaît, qu'est-ce qui se produit ? Eh ben, il se produit effectivement la barbarie, il se produit la déshumanisation, il se produit des choses absolument atroces, quoi. Donc, pour moi, c'est le socle. Voilà, empathie, lien, et j'ai envie de dire un peu plus loin que ça. J'ai envie de dire ce qu'on perd en ce moment et qui moi me fait très peur, c'est le rapport à l'altérité, c'est la capacité à se confronter au quotidien et tout le temps à ce qui n'est pas nous, à ce qui n'est pas de chez nous, à ce qui ne résonne pas comme nous. Donc, c'est la capacité à se confronter à l'autre et c'est la capacité à absorber, accueillir l'altérité. Ça, on est en train, je trouve, beaucoup de le perdre. Je trouve que le technococon, ce que j'appelle le technococon, c'est-à-dire les bulles technologiques dans lesquelles on s'enferme, on se console, on s'auto-choix. J'ai j'ai envie de dire, ces bulles-là créent une espèce de handicap ou de difficulté à se confronter à justement à cette altérité. Donc pour moi c'est un des socles, voilà, c'est un des fondements. Altérité, je dirais, voilà, empathie, lien, enfin c'est des notions qui sont conjointes, mais il y a pas de lien possible si t'acceptes pas que l'autre soit différent de toi, voilà, qu'il soit pas comme toi, qu'il soit pas de chez toi. Ouais.
Qu'est-ce qu'on déconstruit? On est beaucoup dans la déconstruction en ce moment, tout azimut d'ailleurs, peut-être trop.
Ouais, j'ai envie de dire un truc. Là, pour moi, le plus évident, le plus immédiat, c'est l'orgie énergétique. Voilà, c'est d'être un citoyen, par exemple français. Peut-être vous avez tous lu le Jean Covici, la BD du Monde sans fin, où il t'explique que pour vivre, moi, au quotidien, aujourd'hui, voilà, j'ai sollicité 600 esclaves énergétiques, c'est-à-dire que il me faudrait 600 personnes utilisant leurs muscles et leurs capacités humaines pour que je puisse faire tout ce que j'ai fait, les déplacements que j'ai réalisés, tout ce que j'ai. Donc c'est complètement dingue. Tu pourrais avoir 10 esclaves énergétiques, 20 esclaves énergétiques, tu dirais, bon, c'est beaucoup, mais ouais, ok, ça va. 600, c'est juste obscène. Voilà, on est dans l'obscénité, on est dans l'hybris. Moi, j'appelle ça l'énergie maintenant, tu vois, l'énergie, c'est-à-dire l'orgie énergétique, l'hybris énergétique. Donc ça, il faut adresser ça tout de suite, quoi. C'est-à-dire que ça implique qu'il faut complètement repenser tous nos modes de fonctionnement anthropologique, parce que aucune planète ne peut tenir, aucune biosphère ne peut tenir avec un tel taux de consommation énergétique. C'est juste n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est le premier truc qu'il faut enlever. Ouais.
En enlevant ça, on touche à quelque chose qui est constitutif un peu de notre mode de vie, c'est le confort.
Ouais, carrément.
On en fait quoi, du confort?
Mais là, tu touches, tu touches le problème numéro un. Enfin, tu vois, quand tu parles aux gens, ils sont tous d'accord. Là, je suis sûr que j'ai 500 personnes d'accord sur le fait que, bon Dieu, qu'est-ce qu'on consomme trop d'énergie, quoi. Maintenant, tu vas leur demander d'arrêter de prendre la bagnole, tu vas leur demander d'enlever le grippin, tu vas leur demander de pas prendre une douche chaude, etc. Ça va commencer à grincer. Voilà. Donc, ça veut dire, et c'est pour ça que moi, tu vois, si tu parlais de l'école des vivants ou de ce qu'on a fait dans les Alpes de Provence, là, on a créé une ZEST, moi j'appelle ça une ZEST, zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée, on appelle ça comme ça, sociale à cause du politique, terrestre à cause évidemment de Bruno Latour et de l'écologie, et puis enchantée, ben, c'est la création, c'est la puissance du vivant que permet la création. Et dans cette zone-là, moi ce que je dis, c'est que on changera rien si on n'expérimente pas d'autres modes de vie, voilà, si on n'a pas un vécu d'autres modes de vie. Je veux dire, on est là à être terrorisé par l'idée qu'on puisse aller chercher l'eau potable à un puits. Par exemple, ça nous terrifie. Pour nous, c'est la barbarie de faire ça, quoi, tu vois. Mais l'espèce humaine a fait ça pendant combien de milliers ou de centaines de milliers d'années, d'aller chercher l'eau à un autre endroit qu'au robinet où tu tournes comme ça juste le truc et t'as le... C'est juste hallucinant, voilà. Donc, il faut accepter, et ça, moi, je vous le dis, c'est hyper simple, et il faut l'enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants, on va changer de niveau de confort. Et c'est pas du tout une catastrophe, c'est pas du tout un effondrement d'aller chercher l'eau, autre chose qu'en tournant le robinet. Et de tourner juste le petit radiateur comme ça, avec la main, plutôt que d'aller chercher le bois. Moi, je le vis, là, maintenant, dans les Alpes, c'est génial, j'ai compris un truc, quoi. Donc, on a été couper le bois, déjà, dans la forêt. Donc, t'es là, tu fais... Tu vois des arbres de 90 ans, t'es obligé de les couper, tu les tronçonnes, tu les ramènes, tu les stockes dans l'ester de bois, et puis tous les jours tu vas chercher ton bois et tu les bourres dans le poêle, parce que moi j'ai plus qu'un poêle, on peut pas allumer la chaudière parce qu'elle est au gaz, vous l'avez compris, russe, et que c'est hyper cher, et du coup, ça y est, j'ai toute la chaîne énergétique que j'avais pas avant. Avant, j'habitais pendant 14 ans dans un immeuble à Marseille, et je faisais ça. Mais je faisais même pas ça parce que c'était déjà réglé, quoi. Donc j'avais aucune conscience de ma consommation énergétique, aucune conscience de ce que ça impliquait. Là, je commence à voir que je bousille des arbres pour, moi, être à 20 degrés chez moi, et que mes filles aussi soient à 20 degrés, que ma femme aussi soit à 20 degrés, et ce que ça implique. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce? Déjà, elle a même pas de poils, et elle a besoin d'être à 20 degrés tout le temps, et de couper des arbres de 90 ans pour ça. Et tu vois, et ton percept change, tu vois, t'as un truc qui change. Donc il faut simplement revenir à des choses comme ça. On sait on a des solutions technologiques qui peuvent être géniales aussi par le solaire, par l'éolien, etc., par la géothermie. C'est-à-dire qu'on a une intelligence scientifique supérieure qui fait qu'on sera peut-être pas obligé de revenir à couper tous les arbres partout. Mais, on doit accepter que le confort, bah, voilà, je vous le dis, on était l'espèce en haut de la courbe de confort. Voilà. Et ben, on va descendre et c'est très bien. Voilà, c'est mon avis, moi.
Car au-dessus, il y a les chats. Faudra peut-être les calmer en termes de biodiversité, eux. Hein.
Ah bon, je vous parlerai pas de mon chat parce que c'est juste hallucinant ce qu'il fait. Ouais.
Qu'est-ce qu'on pose maintenant qu'on a fait de la place, qu'on a gardé des fondamentaux structurants? Parce que nos amis à l'ONU nous disent surtout ne pas retoucher la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne serait pas en capacité de la refaire aujourd'hui. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas déconstruire. On en a déconstruit, on a fait de la place. Qu'est-ce qu'on remet assez solide pour que nos enfants puissent construire le monde dans lequel ils aimeraient vivre?
Moi, il y a deux piliers que je vois, et ces deux piliers anthropologiques, en fait, quand tu regardes les choses tout très très simplement, tu te dis, les deux piliers, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre rapport à la technologie et qu'est-ce qu'on fait de notre rapport au vivant. Voilà. Sur le rapport technologique, moi, ma conviction, c'est que depuis 40 ans, l'accélération techno a été telle que on n'a pas pu éduquer nos enfants, ni les adultes non plus, ni personne à cette accélération technologique. C'est-à-dire qu'on sait pas construire un art de vivre avec la technologie. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une sorte d'épicurisme technologique à trouver et qui est pas l'épicure de celui qui a été biaisé, c'est-à-dire qui aimerait le vin et la bonne chère. C'est l'épicure de la sobriété. C'est l'épicure qui discerne entre les désirs vains superflus, non nécessaires et les désirs réellement nécessaires. Et qu'il y a une sobriété dans l'utilisation de la technologie. Il y a une intelligence dans l'utilisation de la technologie qu'on doit apprendre. Voilà. Il y a cet art de vivre avec la technologie. Il est pas là. Il est pas en place. On ne sait pas. Je te donne des exemples très, très simples. Personne n'éduque ses enfants, ou quasiment personne, à jouer aux bons jeux vidéo, par exemple. Et à comprendre que Candy Crush ou Angry Birds ou Tetris, etc., c'est des jeux vidéo ultra addictifs qui sont catastrophiques pour le développement cognitif. Et que par contre, il y a des jeux, je sais pas, Shadow of the Colossus ou des jeux comme ça, qui vont ouvrir un imaginaire, qui vont ouvrir une spatialisation, qui vont ouvrir les facultés cognitives et qui sont, émancipatrices, ces technologies-là, pour l'être humain. Et c'est pareil, il y a peut-être une façon intelligente d'utiliser les réseaux sociaux, mais on l'a pas encore trouvé, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour à peu près tout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA arrive, l'IA personnalisée arrive avec ChatGPT et qui va être vraiment démocratisée. Si on n'éduque pas les gens à bien utiliser cette IA, on va là encore vers des cycles de dépendance et d'auto-addiction complètement fous. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et écologiquement, parce que là je parle simplement des usages, écologiquement, le rapport à la techno, il faut passer du high-tech au low-tech. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il faut, considérer que demain, ce qu'on va mettre en place, et avec le plus d'intelligence possible, avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, des technologies qui soient réparables, qui soient recyclables, qui soient modifiables, qui soient transformables, qu'on puisse s'approprier, des technologies donc conviviales, qui soient pas des technologies hétéronomes, c'est-à-dire des technologies où tu peux rien faire, comme une tablette Apple. La tablette Apple te dit comment tu dois l'utiliser et t'as pas d'autre moyen de l'utiliser que ce qui a été designé pour. Donc ça, c'est plus possible, quoi. Voilà. Ou des voitures où tu mets une carte et t'appuies sur on, et si la bagnole démarre pas, t'as plus qu'à appeler le concessionnaire et espérer qu'ils viennent te dépanner, parce que c'est pas la peine d'ouvrir le capot, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas la main sur ces technologies. Donc c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, c'est ultra important. Donc tout ce qui se fait, et bravo au Low-Tech Lab en France, bravo à tous ceux qui bossent là-dessus. C'est pareil en agriculture, avec les ateliers paysans, c'est des choses qu'on doit déployer au maximum, avoir des technologies qui en amont consomment très très peu d'intrants, consomment très très peu de ressources minières, très très peu de métaux ou des matériaux très très recyclables, très renouvelables, qui en aval produisent très peu de déchets, qui demandent très peu d'énergie pour fonctionner. Ça, il faut optimiser au maximum ce truc-là, sinon c'est juste pas possible. Donc ce rapport à la techno, il doit aller vers la low-tech. Il y a plein d'autres mots que la low-tech. Moi, ça me fait chier, il est toujours high-tech, low-tech, parce que j'ai toujours l'impression que c'est en dessous, que c'est de la basse techno et que c'est pourri. En fait, j'aime bien les mots comme technologie conviviale, comme disait Illich, ou technologie ouverte, comme disait Simondon, ou technologie émancipatrice, etc. Il y a plein d'autres mots, sauf qu'on n'a pas la fulgurance de l'anglais low-tech. Et ça, c'est chiant en français. Nous faut 8 syllabes pour dire low-tech. Donc, on galère, c'est un problème de langue, on galère. Voilà, donc ça, c'est rapport à la techno, je pense qu'il faut vraiment le refonder, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu éducatif massif. C'est-à-dire que pour moi, j'éliminerais plein de matières à l'école et je dirais maintenant, on met éducation à la technologie et pas le truc techno super pourri. Je sais pas si vous avez des enfants au collège, c'est juste tragique le cours de techno. Il y a tellement à faire. Mais moi, j'éduquerai les gosses aux jeux vidéo, je les éduquerai aux réseaux sociaux, j'éduquerai à l'utilisation de Wikipédia, je les éduquerai à l'utilisation de l'IA, j'éduquerai à toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, aux smartphones, etc., pour les rendre libres, pour les rendre émancipés, pour arrêter qu'ils se fassent bouffer par les techniques de dépendance. Et ça, franchement, ça ferait du bien vraiment à l'humanité, je pense, qui vient. Voilà.
Tu es au cœur d'une bataille, la bataille des mots, et on l'écrira bien comme on veut. Dans ce combat lexical, quels sont les mots qu'on abandonne ?
Waouh ! Le problème, c'est pas l'abandon des mots, c'est la récupération, je trouve. C'est-à-dire, c'est la faculté qu'a le système, et en particulier donc le système libéral et capitaliste, à récupérer les mots et à les recoder, quoi. Il les réencode, en fait. On a eu un festival, hein, ces dernières années. On a eu Résilience, qui a été complètement récupéré et tordu. On a Vivant, là, qui est déjà complètement bouffé et torturé. Toutes les pubs vont se faire au nom du Vivant, là, dans quelques mois. Qu'est-ce qu'ils nous ont volé? Enfin, c'est juste hallucinant. Tout part, quoi. Dès que tu sors un mot, tu sais qui va être. Donc, c'est plus ça. C'est plus un travail sur le réencodage, sur la récupération, sur le changement de sens des mots qu'ils arrivent à imposer, sur des mots qui au départ sont libérateurs, des mots qui au départ vraiment nous émancipent et qui se referment sur nous, qui se replient sur nous comme des nouveaux mots d'ordre. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'aime beaucoup cette expression de Deleuze quand il dit, voilà, il y a des mots de passe sous les mots d'ordre. Et nous, on est là, enfin, auteurs de SF, artistes, philosophes, créateurs, etc. Ils créent des mots de passe, c'est-à-dire des mots qui nous sortent de la prison dans laquelle on s'enferme tout seul. Hein. Et moi, je trouve qu'on est dans un zoo dont on a fabriqué nous-mêmes les cages, quoi. Et il y a des gens qui arrivent avec des mots de passe. Et Vivant était un vrai mot de passe pour sortir de cette espèce de coupure terrible entre l'homme et la nature. Et ils sont en train d'en faire un mot d'ordre. Et quand t'en fais un mot d'ordre, bah voilà, tu pièges tout le monde, quoi. Donc, pareil, résilience, c'était une super idée de se dire, bah voilà, t'as souffert, t'as été victime, t'as galéré, et tu vas trouver en toi la force de t'en sortir, et on va t'aider à trouver cette force. Et puis voilà, ils en ont fait une espèce de truc pour dire, bah démerdez-vous, les gars, soyez résilients. Et c'est tout comme ça, quand même.
Une question bonus, la dernière. On travaille sur quoi quand on est Alain Damasio à l'approche de ses 60 ans pour faire un quatrième roman?
Bon, il va falloir que je lâche des trucs. un tout petit peu. En fait, j'avais envie de revenir à une cosmogonie comme j'avais fait sur la Horde, c'est-à-dire la Horde est une cosmogonie du mouvement et du mouvement incarné par l'air, en fait, par le vent. Et je trouve toujours génial de partir d'un élément et de déployer un univers autour. Et là, je pense que je vais travailler sur l'eau. Je travaille sur l'eau vive, en fait, en ce moment. Notamment sur la rivière, je suis passionné par les canyons et la rivière. Et là où je suis, il y en a vraiment des fabuleux. Donc, j'ai une sorte d'attirance profonde. Tu pars toujours d'une ligne de désir, d'un nœud de désir en toi. Et là, je sais pas pourquoi, il s'oriente vers ça. L'eau, on le sait, ça compose 70-80% des êtres vivants. C'est une matière absolument indispensable pour ça. Donc je trouve que c'est, après l'air, en termes de fluidité, en termes d'écoulement, c'est très proche aussi pour moi des enjeux de la syntaxe et de la langue qui est un écoulement fondamentalement. Écrire, c'est faire couler un flux, c'est rythmer un flux, c'est le découper, c'est le faire vivre. Et je dis toujours, voilà, créer une phrase, c'est faire couler une rivière et tu vas travailler sur les berges, tu vas travailler sur la largeur des berges, tu vas travailler sur les ruptures de pente, sur la gravité, sur l'engorgement, tu vas jeter des rochers au milieu de la rivière pour rythmer. Donc pour moi, il y a une espèce d'analogon ou en tout cas d'évidence, de congruence entre l'eau et l'écriture. Et du coup, j'ai envie de travailler là-dessus. Et certainement que j'essaierai, sans être sûr d'y arriver du tout, mais... de faire ce qui me paraît le défi littéraire vraiment du moment, surtout en biopunk, de dire qu'est-ce que ça serait créer une langue animale dans la langue, creuser, comme disait Deleuze, une langue étrangère dans la langue, mais qui serait une langue animale, c'est-à-dire une langue capable de restituer des affects animaux, voilà, comme on dit, parler loup, parler oiseau, ou en tout cas être capable de faire sentir des affects oiseaux, des affects loups, des affects sangliers à travers la langue. Donc ça, moi, c'est le défi littéraire que je me donne. Sans aucune certitude que j'aboutisse à quoi que ce soit d'intéressant, mais je trouve que ça vaut le coup. C'est notre défi en littérature. On doit essayer d'approcher cette sensation du vivant par la langue. Voilà.
Merci beaucoup. J'ai envie d'être à deux mains, ne serait-ce que pour ça, histoire de voir l'au-delà.
Merci.
Quel compliment.
Merci.
Thank you.
propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Automne 2050. Mais dis donc, tout a changé ici. Une éternité que je n'étais pas venu dans ton antre, là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, arrivant au soleil levant, en plus de tes hôtes invités de passage, ceux résidant à plein temps, nids, nichoirs, ruches, perchoirs, abris, huttes et tanières, sur fond de caquettements, gazouillements et autres pépiments, un vrai bain de vie. Je me souviens d'un jour, avec tes amis pisteurs, naturalistes et autres passionnés, en 2024, je crois, nous avions passé quelques jours à apprendre, à repérer la plus légère virgule olfactive, les indications contenues par la moindre fesse, le plus intime détail sonore pour développer notre troisième oreille. Ce n'est pas une de tes filles, d'ailleurs, qui est arrivée à développer une troisième oreille absolue, capable instantanément d'identifier sons, chants et nuances des oiseaux d'altitude. En tout cas, le contraste saisit. Face à ce qu'était la crise de sensibilité aux espèces vivantes, qui nous autorisait il y a encore 10 ans à annihiler d'un trait de plume la biodiversité, rien de grave, hein, puisque ce n'était pas nous, pauvres de nous. Ce n'est que vers le milieu des années 30 que nous avons résolument entrepris de régénérer des liens, à chaque fois spécifiques, singuliers, avec chacune des espèces vivantes à nos côtés. Rien de strictement poétique, plutôt un retissage entre habitantes et habitants de la planète sur une même fréquence, reliant nos facultés à raisonner. En arrivant, j'ai aussi vu plein de détails concrets qui témoignent de votre lutte opiniâtre à consommer toujours moins d'énergie. Des vélo-tracteurs pour arriver ici au four solaire aperçu un peu partout, jusqu'à votre réseau strictement humain. Ces mille et une petites choses font écho à la forte émergence de communautés en archipel. Révolution fractale, oasis, zone à désirer, zone d'envie, aire d'envol et de partage, habitat partagé et autres expérimentations foisonnent, de toutes échelles, de toutes couleurs, aux pratiques d'horizontalité et pluriel féminisé. Ça n'a pas été facile, mais quel progrès. En parallèle, face aux températures devenues inconciliables avec la vie, les habitantes et les habitants des villes avaient libéré l'horizon en recolonisant les toits, tandis que s'enclenchait dans le même temps le grand retour vers les campagnes et encore plus vers les montagnes. Partir, pour plus de possible. Mais il nous en a fallu du temps pour craquer cette idée de toujours bouger, de la ville vers la campagne, puis l'inverse, quasi tout le temps embouteillé, à cramer une énergie fossile de malade pour se déplacer sans arrêt. Ces mouvements incessants nous ont cependant mis en ébullition. Nous avons alors baigné en pleine prototopie, cette ligne de fuite, ni dystopie ni utopie qui veut ouvrir des possibles. Repolitisant le rapport au monde, elle révélait les lignes de coupe qui se posaient encore, comme celle de la quantification des échanges, fondamentale pour certains quand d'autres s'inscrivaient dans le troc de services et le partage non monétisé, équilibre de dettes complexes où certains jouent moins le jeu que d'autres, le gratuit à lui seul ne changeant pas l'être. Une seconde ligne émergea aussi très clairement entre ceux qui, choisissant de baisser leur niveau de confort, sont redescendus dans l'air direct, dans la confrontation, les échanges, le jeu, le don contre don et tout ce que cela implique, et ceux restés dans le high-tech et le confort facile de l'individualisme augmenté, attaché à leur technococon et à sa myriade d'IA personnalisées. Bref, englués dans l'accumulation de cette logique petite bourgeoise dont nous avions tant de mal à nous extraire. C'est pour contribuer à faire de nouveaux sociétés, dans un monde où le développement personnel était devenu le seul horizon, que tu as développé cette nouvelle épicurie, jardin d'Épicure de la technologie, où l'on enseigne l'utilisation de l'IA et consorts pour qu'ils nous servent plus qu'ils nous asservent, où l'on y apprend le discernement, l'embellissement du quotidien, où l'on dépasse le soulagement de nos paresses cognitives en distinguant les désirs vains et superflus du retour à l'essentiel, où l'on aime différemment, en restant créatif, en choisissant des technologies nous ouvrant sur le monde plutôt que celles qui le déforment sous la pression de nos certitudes. Très humain, bien plus que transhumain, en toute humanité. Alors bien sûr, tu me disais tout à l'heure qu'il est encore arrivé hier à votre porte 60 migrants climatiques, là où votre système fonctionne à tout juste 50. Évidemment, un combat qu'il nous faut encore mener, ensemble. Mais, tu entends ? Ça doit être la fête qui commence, celle des 10 ans de la métamorphose des furtifs, fille de la charte de Verstollen, puis d'une longue traversée. Face à la déroute politique et institutionnelle qui nous engluait encore dans les années 40, vous, les artistes et intellectuels, vous nous avez invités dans la plus profonde, mais aussi la plus joyeuse et débridée des résistances, réveillant nos vifs, assemblant nos cellules imaginales, vomissant tout ce qui n'était pas la paix. Nous nous sommes embarqués, irréversiblement, redéclenchant des pulsions de vie à créer des œuvres qui traverseront le temps, à réaliser nos prototopies les plus humanimistes. Femmes et hommes mousses, nous devenions papillons d'une nouvelle ère, celle d'une alliance inédite entre vivants de la terre, glissés les uns dans la vie des autres, pleurant dans les rivières, en vulnérabilité et interdépendance pour un destin commun, au fil de l'eau, bien plus qu'au fil de l'épée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.